Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'épaule. Si vous aimez ce qu'on fait au Lac à l'épaule, une bonne façon de nous aider à nous faire connaître, c'est en vous abonnant, en commentant ou en partageant les épisodes à partir de votre plateforme de balado préférée. Merci de le faire. Dans le balado d'aujourd'hui, je vous présente deux invités et une conversation vraiment intéressante avec Valérie Henner, qui est directrice de Quantino, et Bertrand Neveu, cofondateur de Triptyque Capital. L'entrevue, on l'a enregistrée lors de notre dernier Lac à l'épaule. C'était sur l'îlot-grue en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, un endroit fabuleux, pour s'arrêter puis refaire le monde. On a abordé plein de sujets, mais entre autres, le financement des industries créatives, un créneau où on excelle au Québec. Mais avant d'aller plus loin, je vous présente mes invités. Après avoir cheminé dans l'industrie du divertissement et particulièrement dans les métiers du cinéma, elle a touché à peu près à tout, d'actrice, réalisatrice, chargée de projet, Valérie Henner a pivoté un peu par hasard dans l'industrie du jeu vidéo. Et finalement, elle y est restée plus de 25 ans. Elle a participé notamment au développement et l'ouverture de plusieurs studios d'envergure, et entre autres Ubisoft Québec et aussi Frima Studio, souvent dans des postes de direction. Son parcours est très diversifié, même incluant une aventure dans une start-up. Elle a cofondé une start-up qui travaillait sur l'Internet des objets. Elle a ensuite été approchée par l'INO, l'Institut national d'optique à Québec, pour démarrer l'accélérateur Quantino à titre de directrice. Diplômée en ingénierie logicielle de l'Université de Sherbrooke, Bertrand Neveu a fait ses premiers pas dans l'univers hardware chez un leader international de la vision numérique. En 2005, il cofonde sa start-up VRVANA en réalisant un rêve de combiner la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Une douzaine d'années plus tard, VRVANA a surmonté plusieurs barrières technologiques et logicielles, matérielles aussi, financières évidemment, et finalement va être acquise par Apple. Quelques années en Californie et Bertrand est de retour au Québec où il va cofonder Triptyque Capital, un fonds d'investissement en capital de risque dédié aux industries créatives. D'entrée du jeu, j'étais vraiment très curieux d'en savoir plus sur les parcours de mes deux invités dans des industries créatives, bien entendu, mais aussi dans un domaine où il y a beaucoup d'innovation. Pour Valérie, le fil conducteur de sa carrière, puis c'est ce qui l'amène aujourd'hui à travailler pour les startups, c'est l'envie de se mettre au service des autres. Bienvenue au Lac à l'épaule à l'îlot-grue. Donc, on est aujourd'hui avec deux personnes qui viennent de parcours un peu différents, mais qui se rejoignent aussi sur la route. Puis ce que j'ai voulu faire avec cet épisode-là aujourd'hui, c'est parler de grandes forces qu'on a au Québec, de grands accomplissements qu'on a eus. D'un côté, les hautes technologies avec Valérie Henner, tu es directrice générale de Quantino, qui est un accélérateur, incubateur qui est émergent, là, c'est un nouveau, là, mais qui est attaché de près avec l'Institut national d'optique. Donc, de la très, très haute technologie, des appareils de fou là, qu'on fait des. On fait l'envie, je pense, à travers le monde, même avec la grande force de l'optique photonique et tout, plein d'autres. Haute technologie et recherche très, très poussée là, qui viennent des secteurs universitaires, j'imagine, surtout. Puis Bertrand Neveu, qui a eu un parcours entrepreneurial quand même assez exceptionnel, tu nous le détailleras un petit peu plus tard, mais un parcours où on a combiné du logiciel, du software, du hardware, puis ce qui s'en vient là, dans l'univers bientôt avec la réalité virtuelle augmentée, etc. Et aujourd'hui, après avoir eu le grand succès d'affaires, tu crées Triptyque Capital qui vient combler vraiment un gap qu'il y avait dans l'offre de capital de risque pour les industries créatives, qui est une grande force qu'on a développée au Québec aussi avec plusieurs artistes, plusieurs ingénieurs de toutes sortes, mais c'est vraiment, vraiment une grande, comment dire, un milieu d'avenir pour nous ici, pour la génération d'emplois ou de bénéfices, etc. Donc, je vous invite peut-être, Valérie, si tu veux commencer juste te présenter un petit peu là, ton parcours, puis Quantino, là, que c'est?
Oui, moi, j'ai étudié en communication publique, en fait, en publicité sociale. Je travaillais sur les messages, ce que j'aimais, c'était le storytelling, ce qui m'a amené à faire de l'assistance réalisation pour des documentaires, des courts-métrages. Aussi, j'ai été actrice. J'ai touché à tous les métiers pour le cinéma. Puis je suis arrivée par accident en jeu vidéo sur un poste à temps plein d'assistante réalisatrice. Et je suis restée 25 ans en jeu vidéo.
Est-ce que tu jouais?
Je jouais quand j'étais adolescente, oui. Je jouais un
beaucoup?
Petit peu, beaucoup.
Ah, OK.
Je jouais beaucoup dans les arcades. J'aimais beaucoup les arcades pour l'énergie, comme lieu de rassemblement aussi, parce qu'on se retrouvait entre amis.
C'est quoi ton classique préféré?
Ah ben, je suis vraiment, moi, de l'époque, Pac-Man, puis Hamburger oui. Time, puis mm-hmm. Donkey Kong, là, c'était... Puis les premières stations de course automobile aussi, avec des pédales, puis...
Écoute, des tournois, etc.
Ah, c'était vraiment, vraiment génial. Puis donc, je suis restée 25 ans dans ce domaine-là, tout en faisant aussi quelques productions cinématographiques, télévisuelles. Et puis, je suis...
On parle pas de petits studios indie, là. T'étais dans des majors.
Ouais, j'ai ouvert quelques studios. J'ai joint des studios qui existaient, comme le premier Megatone, un des premiers studios en jeux vidéo au Canada, un des deux premiers privés. Et puis après ça, j'ai ouvert des volets gaming, des volets jeux chez IC Action à Montréal, chez Cinégroup à Montréal. J'ai ouvert un studio avec une équipe de direction Ubisoft à Québec. Et puis, après ça, j'ai quitté Ubisoft après 8 ans pour partir une entreprise, partir avec un collègue, Saga, qui faisait de l'Internet des objets, un petit peu trop tôt.
Ouais.
Et puis, après ça, je me suis jointe à Frima comme vice-présidente de la propriété intellectuelle. Puis quand ils ont dû couper, ben, ils ont gardé le service. Ils ont coupé tout ce qui était connexe, tout ce qui allait à l'entreprise.
Frima, eux autres, ils développaient des... c'était de l'applicatif ou quoi?
On faisait de l'applicatif, beaucoup, mais moi, dans ma vice-présidence de propriété intellectuelle, en fait, c'était plutôt du contenu original. On aurait dû appeler ça vice-présidente de contenu original. Puis on faisait de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. On faisait de la télésérie pour la première fois pour Frima. Première télésérie sur cellulaire avec TFO. Donc, on faisait les premières. Puis...
Ça, c'était à Québec même.
C'était à Québec, ouais. Donc,
quand j'étais à Virvana, on avait collaboré un peu avec Frima, justement, réalité virtuelle.
Ah oui?
Sur un projet de
C'est
service.
Encore exploratoire, là.
Ouais.
Mais nous, on était en pré-production. On n'avait pas beaucoup de prototypes qu'on pouvait vendre ou passer, mais... Oui, j'avais eu des discussions intéressantes.
Ce qui était intéressant dans le contenu original, c'est que ça nous permettait d'aller financer avec le FMC, qui était le seul financement possible dans le technoculture.
Ouais.
Mettons, dans le technoculture. Puis pour ce qui est des projets de réalité virtuelle qu'on faisait, par exemple, conjointement avec Ex Machina, parce qu'on a fait la bibliothèque la nuit avec eux, ben eux, ils allaient subventionner au calque, dans le culturel, nous, dans l'industriel, puis ça nous permettait de faire des montages financiers assez solides. Donc, quand je suis partie de là, j'étais à la pige, avec des super clients technoculture, le livre numérique, puis continuer un petit peu dans le divertissement interactif. Puis, Ino m'a approché pour ouvrir Quantino, un incubateur en haute technologie. Au départ, on avait de l'optique photonique.
Yep.
C'était un incubateur pour des startups en optique photonique. Le temps que j'arrive, on avait ajouté le quantique grâce à une subvention du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Je suis arrivé mi-février. Après ça, on a vécu la COVID. Ça a changé le paysage puis les besoins des entrepreneurs. Il y a eu beaucoup de crise d'anxiété par rapport à la COVID, par rapport à la santé financière des startups. On a ajouté, donc, on a bonifié notre offre pour accueillir du mieux possible les startups qui en avaient pas de besoin à partir du prototype. Donc, on a maintenant aussi les technologies, le hardware qui est là, et les technologies médicales se sont ajoutées il y a un an et demi, après avoir accueilli les premières startups. Donc, effectivement, c'est un incubateur qui est créé, propulsé par Inno. On a un brand différent, mais on a la même raison sociale.
Qu'est-ce qui, tu sais, qu'est-ce qui t'a séduit dans cet écosystème-là qui est un peu différent là, de ce que tu faisais avant, là, mais qu'est-ce qui t'a dit, hey, finalement, j'ai vraiment envie de faire ce défi-là?
C'est totalement différent de l'extérieur, là, parce que je m'en viens dans l'entrepreneuriat. Mais moi, j'ai ouvert des startups. Plusieurs, même si c'était pas à mon compte. J'ai eu aussi deux entreprises dans lesquelles j'avais une participation. Puis, quand j'étudiais, avant même de travailler à temps plein, j'ai été en restauration pendant 10 ans. Donc, j'ai comme toujours été au service des autres. Quand j'étais en jeu vidéo, avant d'être vice-présidente puis directrice de production pour Ubisoft, ben, j'étais productrice. J'ai été productrice pendant 17 ans sur les 25. Puis ça, être producteur, dans ma définition à moi, un bon producteur de gros jeux vidéo se met au service de ses équipes pour essayer de les propulser.
OK.
Puis là, ben là, je me mets au service encore de des entreprises pour essayer de les propulser.
Ah ouais, ben là, ça fait 3 ans, donc commencer à avoir des propulsés. Hein?
Ça commence
à sortir.
Ça comme ouais. Si il y en a un qui a un pied à l'extérieur, là, il est en train de se chercher un local.
OK.
Mais il veut garder un autre pied à l'intérieur. Donc après 2 ans et demi, je te dirais que dans 6 mois, on va avoir nos premiers alus, probablement.
Ah ben là, on va suivre ça. Bertrand. T'arrives après un parcours entrepreneurial qui a pris une décennie-ish, là, au moins. Longue histoire courte, là, tu nous la conteras un petit peu plus en détail si t'as envie, là, mais t'as parti une start-up dans ton sous-sol là, pendant plusieurs années, ce que j'ai pu comprendre. Puis ça finit par une acquisition par une compagnie qui a un logo avec une pomme.
Mm-hmm.
Si tu avais fait un parcours comme ça aujourd'hui, est-ce que ça aurait été différent un peu dans la maturité peut-être de l'écosystème?
Ben tout à fait. Dans le fond, une des raisons, tu mentionnais Triptyque Capital, dans ouais. le fond, pourquoi j'ai décidé de faire le saut de travailler pour Apple vers partir à un fonds de capital de risque, c'est que je voyais un qui avait un gap à combler dans l'écosystème. Ça, c'était une surprise pour moi. Tu sais, j'espérais que avec la maturité de l'écosystème, il allait avoir plus d'argent dans le capital d'amorçage. À ma grande surprise, quand je suis revenu en pleine pandémie pour partir le bureau de recherche et développement d'Apple à Montréal, j'ai commencé à faire du angel investment et puis j'ai vu que malheureusement, l'écosystème s'était détérioré.
Ah oui.
Pour le capital croissance, ça, il y en a beaucoup plus. Donc, nous, chez Virvana, on avait fait toute notre recherche et développement. On était prêts à partir en production. Puis, on cherchait du capital, ce qu'on appelle la série A. Puis, du hardware, ben ça coûte cher. Donc, on levait 10 millions, ce qui était très raisonnable pour notre industrie.
Ben, c'était l'époque où Facebook avait acheté Quest pour 1 milliard quelque, là, ou un peu avant, mettons. Ouais, là, mais on parle de 3 montants.
3 milliards même. 3 milliards US. T'avais Magic Leap qui avait levé 1,5 milliard. Donc, tu sais, il y avait aussi Fauve. Il y a plein de compagnies, des compétiteurs qui avaient levé, tu sais, Meta. Avant que Facebook change pour Meta, il y avait une compagnie qui s'appelait Meta, il avait levé 50 millions. Donc, tu sais, on était raisonnable, tu sais, dans le temps, en 2015, quand on levait 10 millions, il n'y avait pas vraiment de fonds de croissance de 300, 400 millions. Ce que tu as de besoin à peu près, parce que un lead va mettre 5 millions dans ta ronde. Il y a des fonds de 100 millions. Innovia, dans le temps, c'était 100 millions, WildStar, tout ça. Donc, c'était quand même un gros bet pour eux de dire, je vais mettre 5% de mon ouais. fonds en partant dans ouais. une compagnie. Donc, tu sais, j'ai dû aller en Californie, pitcher beaucoup, même en Asie. J'ai vraiment fait le tour de la planète pour trouver des investisseurs, mais les gens aiment ça quand t'es un peu dans leur cours. Mais tout ça pour dire que en amorçage, là dans le capital croissance, tu sais, White Star, Innovia sont tous rendus à 300, 400, 500 millions de capitalisation. Donc, ça s'est amélioré justement. si je recommençais en ce moment, je pense que on pourrait être financé pour notre série A. Mais dans l'amorçage, il y a vraiment un manque à gagner. Et puis, ben, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer parce que je faisais déjà du angel investing. J'ai eu beaucoup de cicatrices à travers les 12 ans. Parce que ça a commencé en 2005. Pour la petite histoire, là, dans mon 5,5. Puis après ça, ça a été dans mon sol quand on a déménagé. Mais disons que tout cet acquis-là et cette expérience-là, je voulais pas qu'elle serve à rien, mais tu sais, je voulais, on dit tout le temps, il faut scaler, mais ce que j'aime par le capitaliste, c'est que je peux scaler mes expériences à travers plusieurs compagnies qu'on peut aider. Donc, je trouve ça intéressant que mon savoir à place, je pourrais me repartir une compagnie puis tout ça, mais je me dis, mon expérience peut être bénéfique à 10, 20 compagnies, puis les amener peut-être plus loin que... Parce qu'à la base, c'était pas de vendre. Moi, c'était de partir une compagnie un peu comme Matrox. Tu sais, moi, j'ai vraiment trippé. Quand j'ai fait mon génie informatique, j'avais une Matrox Millennium qui était la meilleure carte 2D sur la planète. Puis je trouvais ça fascinant qu'une compagnie de Montréal fasse la meilleure carte graphique sur la planète. Donc, c'était un peu un modèle pour moi. Je dis, ben c'est possible. Puis, ben, pour toutes les raisons que j'ai dit auparavant, j'ai pas pu malheureusement lever ma grosse ronde puis garder ça au Québec, mais je vois pas ça négatif. Le fait d'avoir travaillé 3 ans en Californie pour Apple, qui est une machine redoutable, ben, je dis souvent que j'ai fait mon PhD en scaling là-bas. Le fait qu'on est revenu au Québec puis que là, j'ai l'opportunité d'aider, adossé à un incubateur, Zoo, qui n'existait pas dans mon temps, pour les industries créatives. Je trouve ça excitant.
Dans le fond, peut-être pour placer l'auditoire, Vervana, tu as fait un casque de réalité, combinait la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Je peux expliquer un petit peu mon parcours. Donc, en gros, moi, j'ai une famille d'entrepreneurs. Donc, si vous avez déjà... laver vos bas avec l'eau de Javel, la parisienne. Ça vient de... C'est mon grand-père qui a parti ça. Donc, j'ai été élevé un peu dans cet environnement-là. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas... C'était très concret.
C'était autour de la table le dimanche puis le lundi.
Exact. C'était très concret. Et puis, un peu comme Valérie, j'étais un fan de jeux vidéo et... j'étais un gros fan de gadgets aussi, James Bond, tout ça. Donc, puis j'admirais aussi des entrepreneurs qui ont un impact global, tu sais, comme Henry Ford, Edison, même Bell ou autre, Intel, Steve Jobs, bien sûr, avec Apple. Donc, tu sais, j'étais là, c'est cool, c'est possible. Puis, dans le fond, c'est là que j'ai décidé d'aller faire mon génie. Je me suis dit, au début c'était mécanique, après c'était électrique, puis finalement j'ai dit, OK, je vais faire informatique. Mais j'ai toujours trippé sur le matériel. Donc, j'ai fait génie informatique, mais pour ce qu'on appelle le firmware, donc programmer l'électronique. Je travaille un petit peu dans l'industrie, après ça je fais mon MBA, parce que je me disais, combiner business et technique, c'est quand même un bon duo. Puis durant mon MBA, ça faisait longtemps que je me disais, tu sais, moi, je connaissais ce ColecoVision, mais où j'ai passé beaucoup, beaucoup d'âge jeune, c'était le NES, le Nintendo Entertainment System. Puis il y avait eu le Power Glove.
Ah oui.
Que j'avais essayé.
Throwback from the past.
Ouais. Puis j'étais, wow, c'est vraiment cool. Puis la prochaine étape, ça va être la réalité virtuelle. Puis il y a eu, dans les années 90, plusieurs essais. Mais ça n'a jamais fonctionné, malheureusement. Puis je m'étais dit, ben, quoi, je n'essaierais pas. Durant l'MBA, la Xbox 360 a été annoncée. Puis, pour la petite histoire, c'était la meilleure carte graphique sur la planète dans le temps. Donc, maintenant, c'est tout dans les PC, mais dans le temps, c'était cette console-là qui a la mère. Donc, c'est parti là-dedans un peu, puis dans mon sol avec... au début, on était trois, un quatrième s'est joint par après. On a fait de la deep tech à expérimenter. Et puis, on faisait des progrès chaque année, mais on était un peu dépendant aussi de l'industrie. Puis, au fur et à mesure, la Wii, les sensors se sont améliorés. Les télé 3D rendus les jeux 3D. Le iPhone avec les Retina Display. Donc, tous les blocs technologiques se sont placés. Puis, nous, notre grande force, c'est qu'on intégrait ça avec l'intelligence dans l'électronique. Puis, une chose que je dis souvent aux entrepreneurs, c'est ayez du feedback du marché, parce que travailler dans une bulle, c'est jamais productif. Puis nous, ça a été par le Kickstarter qu'on a eu cette rétroaction-là. Notre Kickstarter n'a pas fonctionné. On a quand même fait 100 000 la première journée, mais on était ambitieux, on cherchait 350 000. Puis pour des raisons hors de notre contrôle, Oculus ont fait leur première conférence, ils ont annoncé un nouveau casque, nouvelle génération, donc notre casque qu'on mettait sur Kickstarter était plus aussi avantageux par rapport à Oculus, mais les gens disaient « Wow, vous avez des caméras, genre pourquoi faites pas de la réalité augmentée aussi? » Fait que c'était un gros, je me souviens là, on était juste 6 personnes, puis ça a été comme un gros leap of faith de dire « Bon, il nous reste juste comme... Il nous reste un an de runway, ce qui était très bon.
Mm-hmm.
Mais là, si on veut faire un casque qui fait de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, il faut doubler l'équipe. Donc là, on passe à 6 mois de runway. Fait que là, c'était... Mais je me disais, si on le fait pas, on va juste mourir à petit feu. Donc, on l'a fait. On a réussi à relever de l'argent. Puis, je ne vais pas m'éterniser sur toutes les réponses sinon, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est pour ça que je compte l'histoire. C'était comme... pour expliquer que souvent, c'est tes clients qui vont te dire vraiment ce qu'ils veulent. Mmh. Toi, tu peux le faire pour toi. Puis
techno-push, là, qu'on a.
Ouais, c'est ça. Mais le pull du marché, c'est vraiment ça qui est puissant. Puis c'est ça. Puis ça a culminé après 6 générations. Une autre chose que nous, on faisait bien, c'était d'avoir de la rétroaction rapide. Donc, on sortait une nouvelle version aux 6 mois. Puis dans le hardware, c'est quand même exceptionnel. Là. C'est souvent, même Apple avec leur iPhone, c'est aux années. Mm. Puis une équipe travaille sur la version de dans 2 ans. Puis tout ça, c'est comme ça qu'ils réussissent à chaque année à sortir une nouvelle version. Mais
là, vous êtes 6. Là, c'est...
Mais là, on était rendu 12.
Ah, 12, OK.
Quand même. Mais quand même. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'on a réussi, après 6 générations, à trouver notre product market fit. On a gagné Best in Show au CES. Tom's Hardware nous a fait l'honneur, ce qui était quand même incroyable parce que moi, à l'université, Tom's Hardware, c'était vraiment ma référence. Mm-hmm. C'était un petit vlog. Et puis, c'est ça. Après ça, on vu comme j'expliquais que la série A, c'était vraiment difficile, ben on a décidé de continuer l'aventure avec la personne qui a la meilleure vision. Pourquoi, à la base, on faisait un casque VR sur la console, c'est que c'est facile d'utilisation. Tu mets ton DVD dedans, Space Play, puis ça marche, donc c'est assez facile. Puis Apple, c'est un peu ça, leur force, c'est de simplifier la technologie, puis vraiment de mettre beaucoup d'importance sur le design et tout. Donc, c'est ça.
Tu sais, quand tu entends ça de ton côté, Valérie, toi, dans l'industrie du jeu vidéo, tu as connu des gens qui étaient, qui avaient des visions de quelque chose qu'ils voyaient, puis ils avaient besoin de moyens pour arriver à ça. Comme productrice, tu disais, il faut que je m'efforce de mettre les choses en place pour élever les gens dans leur potentiel. Tu sais, aujourd'hui, quand tu travailles avec des gens qui viennent de la recherche scientifique ou qui ont des trucs exceptionnels, mais tu sais, du hardware, ça s'appelle pas hard pour rien. Il y a quelque chose de plus difficile, hein? Ça se peut-tu?
Oui, ben pour ce qui est des entrepreneurs chez Quantino, moi, j'interviens pas sur leurs projets. On met en place des structures, des infrastructures, des experts qui vont les aider. Moi, je suis pas une scientifique, puis je suis pas dans l'actionnariat de la compagnie, donc je ne vais pas m'imposer ou prendre un chapeau qui est pas le mien. Et après, ils sont là pour apprendre à faire de la business, puis ou pour être excellent. Par ailleurs, si on en revient aux jeux vidéo, le hardware avec lequel on a travaillé la plupart du temps, il était terminé. Il était au moins en version 1. Tu sais, quand je passe à réalité virtuelle, c'est sûr qu'on a travaillé avec des kits qui n'étaient pas commercialisés encore, puis qui ont occasionné leur lot de problèmes, puis leur lot d'étourdissements, puis leur lot de mal de cœur, parce que le frame rate n'était pas stabilisé, puis tout ça.
Ça pardonne pas la
VR. Non, la VR, c'est vraiment, là, t'es dedans, tu sais, c'est un peu schizophrénique. Faut que tu fasses attention au contenu que tu donnes, les durées que tu donnes, le frame rate, le nombre, comment tu bouges tes images à l'intérieur du casque. Mais sinon, quand tu travailles avec du hardware qui est toujours évolutif, hein, les consoles changent de version, de génération de console. Aux 5 ans, en moyenne, ça leur fait vendre des consoles. Toi, ça te donne plus d'outils. Ça te permet d'avoir des plus beaux graphiques quand t'es producteur de contenu. Mais c'est ton canevas. C'est ton canevas de travail. Fait que t'apprends à travailler avec un outil, puis comme un peintre travaille avec ses outils aussi. Un artiste travaille avec ses outils. Puis on fait souvent, moi, je fais souvent le parallèle, là, entre l'entrepreneuriat scientifique qui est de l'innovation scientifique à partir du moment où est-ce qu'elle est commercialisée ou de la création, ben en fait, c'est un tronc commun. Hein. La création, la créativité qui est demandée en arrière, c'est un tronc commun. Tout ça est créatif.
Mais tu sais, quand on écoute le parcours de Bertrand, tu as quand même... T'as ton objectif de livrer l'expérience usagée ultime dans un environnement de gaming, mettons, on va le résumer un peu comme ça, mais la réalité d'un parcours entrepreneurial, quand il faut que tu lèves de l'argent, faut que tu prévois ton pipeline de R&D, ton roadmap là, technologique pour être en même temps que l'autre quand il va sortir quelque chose
puis ou un faut peu que avant. Ça soit adopté. Il y a une question de timing. Des fois, ton timing est juste pas bon. Ouais. Le VR s'enseignait à l'Université Laval, il y a 30 ans. Mm-hmm. La technologie quantique s'enseignait dans les universités il y a 30 ans aussi.
Ouais.
Puis,
c'est que tu as un timing aussi en affaires.
On ramène ça plus tard, oui.
Tu as un facteur chance des fois. Là,
mais c'est pour ça que ça a pris 12 ans. C'est que nous, au début, on était très, très, très frugal. On roulait avec des budgets de 70 000 par année. On recevait 45 000 de crédits R&D. Fait que, c'est, ça nous coûtait 25, 30 000 pour expérimenter. Mais on savait qu'à un moment donné, ça allait décoller. Puis quand ça a décollé, là, c'est là que le capital de risque est rentré puis tout ça.
Oui.
J'ai toujours « better be too soon than too late ». Voilà. Mais c'est sûr qu'il faut une patience, il faut une passion. Plusieurs fois, j'ai voulu lâcher. J'ai pris des chambres de lac à l'épaule pour moi-même.
C'est du bien.
Donc, pour, tu sais... Vraiment dire, est-ce que ça vaut encore la peine de...
Et puis, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens financiers aussi pour essayer,
c'est sûr.
Pour toffer pendant 12 ans ou pour toffer même pendant 2 ans. Tu sais, ça dépend de où est-ce... Au Québec, on est quand même bien servi par rapport aux subventions, au financement public. Avant de trouver du capital, il y a quand même toutes sortes de subventions possibles.
En même temps, tu sais, je veux dire, ce que tu as pu faire, c'est avec des corps de scène, là, si tu compares ailleurs, là, je veux dire, on est bien servi, mais tu sais, c'est des plus petites assiettes.
Peut-être, s'il s'agit, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être né pour un petit pain non plus.
Non, c'est vrai, tout à fait.
Mais ça veut dire que dès le départ, tu peux avoir peut-être plus d'initiatives parce que si on ramène ça à l'université, moi, la plupart de mes entrepreneurs arrive d'un parcours universitaire, pas tous, mais arrive d'un parcours universitaire où est-ce qu'ils ont eu accès à des laboratoires, ils ont pu étudier sans que ça leur coûte 50 000 piastres par année, donc tu peux t'attarder.
Oui. C'est une forme de subvention.
C'est un peu. On te facilite un peu la vie, là. C'est un accès à l'éducation, c'est un accès au savoir, c'est un accès à des outils.
Tout à fait. C'est ça.
Mais ça te donne accès, donc il y a peut-être plus de gens qui vont pouvoir essayer des trucs. Se tromper, t'as pas besoin de venir d'une famille richissime pour prendre le temps d'essayer à l'université. Non. Tu peux essayer, tu peux explorer. Puis je pense que les belles innovations sont faites de plusieurs personnes avec des parcours différents ou d'une personne qui a exploré beaucoup dans sa vie, qui a voyagé, qui a été capable de rassembler des gens différents autour d'elle. Et que je pense qu'en fait, on a une force là, une force québécoise qui est très particulière à exploiter.
Oui, au niveau de la créativité aussi, ouais. Là, ouais, c'est ça, l'esprit, ben, l'esprit libre, oui, peut-être.
Ben, l'accès au savoir
ouais,
qui te permet d'être créatif.
Ah, oui, c'est ça.
Ouais.
Ouais. Puis, tu sais, bon, ça s'est fini par un succès quand même, mais entretiens-tu aujourd'hui peut-être, tu sais, si on avait réussi notre série A, on aurait fait telle autre chose ou...
C'est sûr que je le cacherai pas, là. Au départ, c'était comme un succès mis à mal.
Ah oui?
C'est sûr.
Ouais.
Mais tu sais, je suis pas à plaindre du ouais. tout, là. Mais tu sais, je pense que Apple en ont eu pour l'argent.
Ouais. Ben, on n'a pas vu le casque sortir encore aujourd'hui. Ça va mm-hmm. venir, on présume, là, mais on sera pas déçus.
Non, je serai pas déçu.
Le sais-tu ce qui s'en vient avec le casque?
J'ai quand même travaillé trois ans là-dessus.
Ah oui?
Ça fait quand même un an que je suis plus là, donc il y a beaucoup de choses qui ont pu changer depuis, mais puis bien sûr, je peux pas en parler, mais c'est sûr que comment je pourrais dire ça, tu sais, s'il y a une compagnie qui peut vraiment mettre la réalité virtuelle sur la map de la bonne façon avec un écosystème complet, c'est Apple.
Mm. Pourrais-tu déjà travailler du contenu?
Ce que je dis souvent aux gens, c'est familiarisez-vous avec ARKit et ce qui est déjà disponible sur l'iPad. C'est sûr que ça va pas vous
aider. Ça va passer par là. Ouais.
Mm-hmm.
Intéressant quand même. Hein? On n'a pas de scope. Là. On ne peut pas le torturer non plus. Mais c'est juste, ça se comprend aussi. Là, je veux dire, c'est probablement dans des clauses. Tu peux pas parler. Même, c'est mm-hmm. risqué d'en parler aujourd'hui plus que ça. J'imagine. Mais tu sais, c'est mis à mer, mais tu sais, est-ce que c'est... Parce qu'on dit, tantôt, on disait, on peut se permettre de rêver ici, on a une éducation, etc. Mais tu sais, est-ce que c'est tout à fait vrai que peu importe où est-ce que t'es, le monde est à ta portée ou il y a quand même une certaine réalité, là, dans ce que c'était il y a 10 ans, peut-être, là, puis aujourd'hui que ça l'a changé
un petit
peu. Qu'est-ce
que tu veux dire, peu importe où est-ce que t'es?
Ben, mettons, tu sais, je veux dire...
Monde, ou
Oui, tu sais, puis je veux dire, ben, dans le sens où, tu sais... Il a voulu monter une ronde, mais il était dans une industrie qui est difficile, dans du hardware qui est ça, mais peut-être qu'ailleurs, ça aurait été différent.
C'est ce qu'on dit, là, franchement, dans le contenu techno-créatif. Ce qu'on dit, c'est que le Québec est particulièrement fort en idéation, création, développement, recherche, mais qu'une fois en commercialisation, marketing, mise en marché, t'es mieux servi aux États-Unis. Mais
une masse critique aussi de consommateurs, j'imagine, après.
Probablement, une mm-hmm. masse critique, sauf que le Québec est vraiment bien positionné pour comprendre les marchés, c'est dans l'exécution après que c'est comme on se donne peut-être pas les moyens ou la confiance
de
faire.
Moi, souvent, l'analogie que j'ai, c'est comme quand tu joues au poker, puis tu as beaucoup de jetons, tu peux prendre plus de risques pour aller voir les trois cartes ou la flop, la river, whatever. Quand t'as moins de chips, ben, tu vas peut-être...
Tu choisis
tes coups. Puis c'est un peu ça, les Américains, ils payent pour aller voir, puis des fois, ils gagnent tout.
Ouais.
Donc, je pense que c'est un peu ça pourquoi que Triptych, j'y crois vraiment beaucoup, c'est que on spécialise dans quelque chose qu'on est extrêmement bon, les industries créatives. On a des partenaires, des LP, là, donc des investisseurs stratégiques dans notre fonds qui, eux, amènent de la valeur aussi aux compagnies dans le portefeuille. Donc, on croit vraiment que c'est une façon de dérisquer ça. Mmh. Même si on a moins de jetons pour prendre des chances, on croit que le risque va être diminué parce que c'est une industrie qu'on connaît bien. On a fait beaucoup de mises en marché au Québec dans les jeux vidéo. Donc, ça, c'est transférable.
Mais tu me fais penser à... J'avais une discussion avec des des anges de Rochester puis New York dernièrement qui étaient en photonique quantique particulièrement. Puis ils comprennent pas comment au Canada, en général, on investit. Parce qu'ils trouvent qu'on se soupoudre peut-être, comme tu dis, mais qu'on est bien généraliste, tu sais. On y va comme bien horizontal, tandis qu'aux États-Unis, c'est vraiment son vertical.
Parce qu'on est moins mature encore.
Oui, puis eux, ils ont des expertises, des spécialisations, des fonds là, qui vont pouvoir suivre, mais dans l'expertise scientifique aussi. Donc, quand tu penses au quantique, puis la photonique, ça, pour eux, c'est des scientifiques qui vont venir intervenir dans leurs fonds.
Mm. On en voit de plus en plus de fonds spécialisés, donc ça, c'est quand même bon signe au Québec.
Dans quel secteur, là?
Désolé, mes anglicismes, mais dans le clean tech.
Ouais. Climat. Ouais.
Climat, exact.
Agriculture,
exactement.
Ag-tech.
Cybersécurité. Même quantique.
Quantique, de plus en plus.
Avec Sherbrooke.
Femme, qui n'est pas un secteur en soi, mais l'entrepreneuriat féminin est aussi encouragé dans certains fonds en particulier. Oui,
tout à fait.
Même au niveau de la BDC, au niveau canadien. La BDC pousse beaucoup pour l'entrepreneuriat féminin, ce qui est une très bonne chose. Nous, un de nos facteurs...
Puis médical.
Oui, un de nos facteurs de succès chez Verona, c'était la diversité. On n'avait pas beaucoup de femmes, mais on était très divers au niveau de la neurodiversité. Donc, quand tu as plein de monde qui pense pareil, c'est jamais bon. Donc, je crois que c'est une bonne chose qu'on voit. Ouais,
quand tu parles de neurodiversité, là, t'as des gens qui ont des profils autistiques, TSA ou dyslexiques, TDAH, douance, t'as tout dans un pot. Puis là, c'est pas juste du monde qui pense différemment. C'est niaiseux à dire, mais je veux dire, ils ont une façon de percevoir les stimuli différemment puis d'interagir avec ça puis de sortir une réponse différente.
Exactement.
Ça s'apprend pas, ça.
Ce qui, moi, pouvait me gosser en réalité virtuelle, gossait pas l'autre, mais l'autre voyait d'autres choses. Fait que ça faisait qu'on optimisait pour toute la population, si on veut.
OK.
Puis ça faisait une expérience très lichée et hors du commun. Donc,
mais tu sais, on peut. Il s'agit de ne pas venir de la même réalité sociale démographique.
Oui.
Oui, c'est aussi.
Tu as une diversité de pensée, là. Tu sais, je veux.
Non, c'est ça. Ben, une diversité, il y a une diversité. Je veux dire, on est tous différents.
Ben,
on le dira peut-être comme ça aussi, là. Mais il y a des choses qu'on a des. On peut avoir des sensibilités différentes aussi.
À moins d'être finissant de la même cohorte après avoir passé 3 ans ensemble dans le même secteur puis de venir du même cégep.
Ouais.
C'est difficile de penser tous pareil.
Quand tu as des gens qui viennent d'entrepreneurs scientifiques, là, c'est-tu comme une personne qui avait un projet X de recherche, puis que là, ils arrivent tout seuls ou sont déjà.
Nous, chez Quantino, on accepte des entreprises à partir du moment où est-ce qu'ils ont un prototype. Donc, on ne les prend pas en idéation, en conception. Dans le langage scientifique, on parle de technical readiness level, de niveau. Technique, comment on dit, le niveau technique, ou est-ce que, en tout cas, nous, on les prend à partir du niveau 4, donc en prototypage.
Puis de mémoire, ça va jusqu'à 9, c'est ça?
Puis ça va jusqu'à 9. Donc, nous, on les prend de 4 à 8, puis c'est là qu'on est le mieux équipé pour les aider. Puis ils arrivent souvent, donc, après avoir passé leur niveau 0, 1, 2 à l'université, des fois dans l'incubateur de l'université, accompagnés ou pas par Axelis. Puis après ça, s'ils sont en haute technologie, puis qu'ils sont dans la région de Québec, puis même à l'extérieur, parce qu'on a plusieurs entreprises qui viennent de l'extérieur sur nos 20, là, quand on parle en pourcentage, on a, je te dirais, 25-30% qui viennent pas de la région de Québec.
Puis ils arrivent, tu sais, bon, alors là, est-ce que tu as un profil scientifique avec 2 ou 3 autres gens de recherche, ou là, on les amène tout de suite à se stabiliser là, avec des équipes
Ils sont tous vraiment différents. Là. J'en ai qui n'ont pas fini leur université. Il y en a qui n'ont pas de DEC. Il y en a qui sont vraiment autodidactes. Il y en a qui sont pareils. 2 physiciens qui arrivent puis qui ont besoin d'être complétés par un autre profil pour justement les aider à accélérer. Il y en a qui ont déjà fait une carrière puis que c'est un. Ils sont en fin de carrière, puis là, ils ont envie d'un projet personnel. C'est vraiment là, j'ai des Bertrand aussi, j'en ai qui arrivent là avec des idées de hard work qui pourraient être mis au profit de la médecine autant que le divertissement, parce que toi c'est un peu ça là, ton casque là, j'imagine
que
les utiliser sont
au départ multiples. C'était pour le jeu, mais après ça quand il y a eu le merging du AR/VR, on a pivoté vers l'industriel parce que on s'est dit on pourra pas concurrencer contre les gros Américains que ils vont le vendre en bas du prix coûtant, un peu comme les consoles, c'est un peu ça leur modèle. On va faire la Ferrari de la réalité mixte. Donc c'est sûr, ça coûte un petit peu plus cher, mais on s'est dit on va le vendre 5 000 $, puis les gens vont être prêts à payer, puis les gens étaient prêts, mais on avait des clients comme Audi, on avait dans le médical CAE, Healthcare. Ouais. Donc, c'était très divers, nos clients. Disney, dans les parcs d'attractions, c'était notre premier client. Je me souviens, j'ai été porté moi-même le 4 juillet. C'était,
le 4 juillet en plus.
Ouais, c'était un beau voyage d'affaires.
T'as-tu installé des oreilles sur le plaque?
Tu aurais dû.
Des antennes.
Des oreilles de Mickey Mouse. Hein.
Mais... Non, l'entrepreneuriat, tu sais, il faut être aventureux, ça, ouais. C'est sûr.
Mais il y en a, j'en ai quelques-uns, là. Il faudrait que je fasse le ratio, là, mais de père en fils.
Ah oui?
Ouais, vraiment. Ah, malheureusement, là, j'ai pas de fille. J'en ai une fille qui est entrepreneur, qui est fondatrice, copropriétaire. Il y a quelques filles qui sont employées des compagnies, mais dans mes 20 entrepreneurs, il y en a plusieurs qui sont de père en fils, mais des fois, pas nécessairement. Entrepreneur à entrepreneur, mais par exemple, j'ai Piquetta, là, c'est des fils de fermiers qui ont décidé d'améliorer la vie des fermiers en 2022. Eux autres viennent du Nouveau-Brunswick, champ de patates. Ils veulent améliorer la qualité des récoltes. Mais c'est des fils de fermiers qui sont fermiers techno.
Une statistique intéressante, c'est la dyslexie, c'est 10% de la population, mais au niveau des entrepreneurs, c'est de 30 à 35%. Donc, on peut dire un peu que c'est génétique, l'entrepreneuriat, c'est que quand tu es dyslexique, tu apprends différemment, le cursus scolaire, c'est pas la meilleure façon pour toi. Donc, tu veux un peu créer un environnement favorable pour toi où tu peux t'épanouir. Puis l'entrepreneuriat, c'est ça un peu. C'est créer une compagnie à ton image, tu t'entoures de gens complémentaires, puis fait que je pense que... Il y a un peu de ça là-dedans.
Puis opportunité, souvent, c'est qu'est-ce que j'ai un problème, je vois une opportunité, donc on le fait, on le fait, mais pas peur. Puis des fois, t'as à perdre, des fois, t'as accumulé des choses, puis tu prends des gros risques. Là,
Souvent, c'est ça.
Oui, quand même, mais des fois, t'as rien à perdre.
Ou t'as mis ta maison parce que tu voulais être prêt de la BDC, justement. Là,
En effet.
Ouais. Mais tu sais, tu parlais de dyslexie, puis TDA, c'est la même affaire. Là, je veux dire, il y a une surreprésentation dans l'environnement des fondateurs. C'est peut-être tous ces startups technologiques, là, des fois, là, mais moi, j'ai eu une discussion récemment avec des chercheurs qui ont fait une super belle recherche sur l'entrepreneuriat scientifique, spécifiquement. Puis là, ce qu'on voit, c'est une surreprésentation de TSA, Asperger TSA, tu sais. Puis parce qu'eux autres s'accomplissent mieux dans un cadre académique, alors que, tu sais, dyslexie ou TDA, en tout cas, au Québec, là, tu n'étais pas très bien servi à l'époque.
Même chez Apple, là. Quand j'ai joint Apple, tout était écrit, là. Tout, là.
Ah oui.
Parce que eux, ils ont tellement de roulements. En général, les gens restent un an et demi. Fait qu'ils veulent tout documenter.
Ah oui.
Donc, pour moi, qui est très oral, tu sais, j'ai pas de problème à lire, j'ai pas de problème à écrire, mais ça me demande, ils ont démontré, là, ça demande 6 fois plus d'énergie un dyslexique à lire et à écrire. Donc, à la fin d'une journée...
Tu brûles plus de calories?
Parce que c'est un circuit dans le cerveau qui décode les phonèmes.
OK.
OK. Puis nous, on l'a pas, ce circuit-là. Donc, c'est du pattern matching. Mm. Donc, quand on lit, on match... OK. Cette combinaison de lettres-là, ça veut dire ça. Donc, on a des mémoires photographiques, c'est un avantage, mais quand on lit, là, si je fais une heure de lecture, c'est comme 6 heures de lecture pour toi. Donc, tu peux t'imaginer que je lis pas 10 heures par jour.
Peut-être, là, mais OK. Ouais, mais c'est intéressant. J'avais pas. Tu vois, moi, j'ai le TDA, ça fait que ça me donne. Maintenant, moi, je l'ai su. Toi, on se parlait hier, tu l'as su à 40 quelques. Moi aussi, c'est un peu la même affaire, tu sais. Puis. quand tu regardes le passé. Puis moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est que, ben c'est ça, je veux dire, le TDA, c'est que tu vas compenser pour toutes sortes de choses, puis on a une mémoire aussi, puis on a un côté créatif, mais je veux dire, moi, je suis attiré par l'apprentissage, le nouveau, la nouveauté tout le temps. Ça peut être des super forces dans des entreprises, mais d'autres fois, là, tu sais, une entreprise, il y a un fit, là, tu sais, puis là, c'est ça qu'il faut qu'il continue. Puis moi, j'ai comme tendance à vouloir faire un petit peu autre chose, changer des trucs, tu sais, etc., alors que ça pourrait très bien marcher. Ça m'amène à poser peut-être une question très ouverte, là, mais tu sais, quand on connaît des données comme ça, qu'il y a des surreprésentations de certains profils, c'est pas tout le monde, mais tu en as un 30 % mettons, ou 40 % qui ont un profil de même. On s'ajuste à ce moment-là dans l'accompagnement.
Mais sans les diagnostiquer, là, parce que moi, je suis un petit peu frileuse par rapport à ça, là, de faire des généralités puis de parler de tendance et tout ça. Là. Mais quand tu es à l'écoute des gens, puis surtout quand tu as le luxe de travailler dans une grande structure, une grande structure où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, là, ça te permet de travailler autrement. Quand tu es trois dans une équipe, tu as la job à faire à trois, puis il faut que tu fasses, tu n'as pas tant de malléabilité par rapport aux cases vides, puis à ce que tu as à faire. Mais par exemple, chez Ubisoft, là, on avait réussi à travailler les producteurs. Il y avait des producteurs puis des équipes qui étaient beaucoup bien meilleures en développement d'idées, d'autres en fabrication, production, puis d'autres en livraison, testing. C'est pas les mêmes profils.
Tout à fait.
Quelqu'un qui a besoin de développer puis de penser puis de réaliser n'est pas nécessairement confortable à livrer le produit à la fin. Puis ça, c'est le luxe de travailler avec, puis le luxe d'être à l'écoute aussi de tes équipes puis des gens. Je pense que c'est un peu la job d'un producteur ou d'un chef d'équipe. Là, c'est au-delà d'avoir des connaissances techniques, technologiques.
Ouais, il y a de l'humain là-dedans.
Il est au centre. Tu sais, en production, on parle tout le temps du fameux triangle budget, échéancier, scope, objectif de contenu, finalement. Mais dans le centre de ce triangle-là, là, c'est l'humain qui est là. Puis si tu ne l'as pas, l'humain, t'auras
c'est complexe, un humain.
Ouais, c'est complexe.
Ouais,
ça... Puis ça peut te prendre du temps avant de trouver tes bons équilibres. Puis comme tu dis, il y a du roulement en jeu vidéo au Québec, c'est 3 ans à peu près. Fait que t'es toujours en train de réajuster. Mais c'est un peu la beauté de la chose aussi, c'est que t'es toujours en contact ou en curiosité de l'autre. Puis l'autre fait tout le reste aussi au-delà du travail, tu sais. À l'extérieur, c'est la connexion qu'on a avec la vie.
J'imagine, maintenant, chez Quantino, vous avez aussi des entrepreneurs en résidence, des gens qui l'ont vécu, là, tu sais, puis qui peuvent transmettre. Donc, tu sais, quand tu arrives avec des gens qui sont, on va le dire grossièrement, là, mais de la crème, tu sais, qui sont passés dans le système universitaire, qui ont des grands diplômes ou des grandes expertises, tu tombes dans un environnement où tu connais rien. T'as peur de le montrer, hein? T'as peur à quelque part de dire, écoute, j'ignore quelque chose, aide-moi, non? Ou ça vient facilement?
Ça a été bien difficile pendant la COVID, en fait, parce qu'il y avait toujours l'écran. On se voyait en 2D, on n'était pas capable de... On n'avait pas la même finesse de...
L'empathie n'est pas pareille.
L'empathie est là, mais ça prend... Ça a été une autre approche à développer. Mais je te dirais que on a une histoire d'aide humaine.
Ouais.
À travers tout ça, on a été capable de détecter un cas. C'est pas facile d'être entrepreneur. Ah, on se le cachera pas. C'est pas facile.
C'est des jobs les plus difficiles.
C'est vraiment difficile. Puis tu peux avoir un gros creux dans ta vie. Puis tu sais jamais ce qui se passe en dehors de l'écran. Là. Il y a une autre vie, là, t'as ta vie personnelle.
Ouais.
D'être capable de rentrer en relation avec un entrepreneur puis de développer à travers des questions sincères, réelles.
Comment ça va?
Humaines. Comment ça va?
Pas t'habiller, toi, hein? Comment ça va?
Puis moi, ça va comme ça parce que c'est la COVID. Toi, ça va comment? Puis d'être capable de rentrer en vraie relation, ça a été très bénéfique pour certains d'entre eux.
Moi, je suis convaincu que c'est un des facteurs clés là, qu'on néglige trop souvent dans l'écosystème entrepreneurial. À quel point c'est difficile? T'as des rêves, des ambitions, mais il te manque des choses. C'est souvent du cash, mais souvent tu penses que c'est ça qui te manque, mais c'est autre chose.
Mm-hmm.
Ça use, là, tu sais. Après 10 ans, 12 ans, j'imagine, ben là, je veux dire, m'amener, tu files.
Ben, c'est que, écoute, moi, la dernière année et demie de Virvana, il y a 7 fois que je savais pas comment faire la paye.
Ah ouais.
Mais je pouvais pas le montrer. Moi, quand j'arrivais au travail, j'avais le sourire. Mais je dormais pas. Là, la dernière année et demie, là, je faisais de l'insomnie à tous les soirs. Ah. Je dormais à 4h30. Puis, tu sais, j'étais tout le temps en pitch. Mais c'est ça, it's lonely at the top. Ah. Les gens, ils t'idéalisent un petit peu. Faut que tu sois fort, faut que tu ça. Puis, tu veux pas montrer non plus à tes employés que, tu sais, ils savaient
ça
pas.
Ça pourrait là. Mal aller. Non,
ça c'est pourrait pas mal ça, aller moi. Parce que là, ils vont s'en aller. Fait que, tu sais, t'es toujours en train de courir après ta queue, puis tout ça. Puis, moi, ce qui m'a aidé, j'allais à Entrepreneur Anonyme, qui était comme un bon entrepreneur. Et puis, j'ai commencé à faire la méditation.
Ah oui?
Ben, Headspace ou Mindspace, Headspace, je pense. C'était une
application.
Exact. Ouais. Puis moi, je prenais l'autobus tous les matins pour aller au travail, puis je faisais mon Headspace, puis ça m'aidait. Mais la santé mentale des entrepreneurs, je sais que vous allez en parler là avec d'autres gens, mais c'est sûr que c'est un enjeu.
Ah, c'est clair. C'est sûr que... Ben, tu sais, moi, j'ai eu un parcours d'accélération aussi chez Santec, tu sais, puis il y avait... Un truc qui s'appelait Centré. Donc, tu sais, c'est une psychologue en spécialité industrielle, là, peu importe, là, mais je veux dire, elle prenait des gens en cohorte, puis tu n'étais jamais avec un cofondateur ou quelqu'un de ton équipe, là, tu sais, puis c'est un safe room, là, tu sais, où on est 4 ou 5 personnes qui vivent pas exactement la même business, mais un parcours de fondateur, d'entrepreneur, puis Sun and Cloud, tu sais, une fois par mois, comment ça va, tu sais, des bonnes choses, moins bonnes choses, puis on se reparle dans un mois, tu sais, puis une récurrence de ça, puis moi, je veux pas en manquer un, là, tu sais, je veux dire, je vais tasser toutes mes horaires pour continuer des choses comme ça, parce que, tu sais, moi, c'est là que j'ai appris à quelque part le stress, c'est quoi, tu sais, le stress, même tu dis, ah, moi, je suis pas stressé, ça va bien, tu sais, en fait, tu gères un stress, tu l'as pareil, le stress, tu sais, puis les stresseurs, là, Sonia Lupien, là, je sais pas si t'as déjà vu le livre « Par amour du stress », non, mais en tout cas, c'est une chercheure mondiale, une renommée mondiale dans le stress à l'Université de Montréal, puis ça fait comme 20 ans qu'ils cherchent une cinquième stimulé qui suscite le stress. Le stress étant la sécrétion d'hormones de stress. C'est les mêmes depuis les dinosaures jusqu'à aujourd'hui. Là, je veux dire, les hormones de stress servent à nous sauver la vie, à faire augmenter le rythme cardiaque, à faire enclencher une réaction. Tu sais, donc la nouveauté, l'imprévisibilité, le sentiment de perte de contrôle, puis l'attaque à l'ego. Il y en a pas de cinquième là. C'est ça, puis tout peut être ramené à ces quatre facteurs là. Puis ça se communique parce que quand t'es dans un groupe d'antilopes dans la savane, puis qu'il y en a un qui détecte un danger, ça se communique. Ouais. Tu sais, puis elle a dit dans mes laboratoires de recherche, je stresse quelqu'un. Puis je mets quelqu'un d'autre à côté, puis je mesure en temps réel ces hormones de stress, puis c'est démontré que ça se communique, ça fait que de quelle façon on s'est rendu à ces explications-là. Mais quand t'es, tu sais, alone at the top, je peux-tu dire que des facteurs de nouveauté, d'imprévisibilité, de sentiment de perte de contrôle, puis d'attaque à l'ego, c'est l'eau de... quotidien pratiquement. Là.
C'est une belle soupe.
Ouais, c'est une belle soupe, tu sais, puis tu le vis, tu l'accumules. Là, tu as fait de la méditation. On recommande beaucoup de faire du sport parce que quand l'antilope part à la course, elle brûle ses hormones de stress. C'est que c'est un peu le palliatif, pas le palliatif, mais plutôt le mécanisme pour s'en défaire, entre guillemets. Moi, j'ai eu, je sais pas combien de fois, de mettre ma carte de guichet, anticiper insuffisance de fonds pendant des années. Là, je ne peux pas le dire. Ni à ma blonde, ni à mes parents, ni à personne, parce que c'est la fin, là, tu sais, la fin du rêve. C'est fou, pareil, de vivre ça. Ouais. Moi, ça m'amène à éveiller les consciences là-dessus dans l'écosystème. Tu sais, on est un écosystème. Souvent, les gens qui travaillent, toi, t'as une longue expérience, mais tu sais, les gens qui sont des fois sur le service de première ligne, là, tu sais, les employés qui arrivent, mettons, ils ont fait un bac en innovation, mais ils n'ont pas vécu la vie de start-up comme telle. Je travaille plus dans le domaine de start-up, là. Mais je veux dire, tu sais, si tu n'as pas conscience que tu es un entrepreneur, là, ça n'a pas de chèque de paye, là. Ça se paye en dernier, là, tu sais. Ça paye tout le monde autour parce qu'il y a besoin de tout le monde autour. Puis
ça s'appellera au chômage.
C'est une réalité qu'on parle très peu.
À moins qu'il y ait 20% et moins de la compagnie.
Ouais, mais
ça peut s'arranger quand tu peux le réfléchir comme ouais, ça, sûr. En ouais. étant à 5 ouais. dans une entreprise.
Ouais. Tu peux te créer un gros pôle d'action, t'en garder juste 20, puis les gens les distribuer peut-être. Ouais, ça peut être original. Mais je veux dire, c'est vrai, ça n'a pas le droit nécessairement au chômage. Tu peux pas prendre, ben, tu peux prendre un congé de paternité, là, mais en réalité, ou maternité, là, mais je veux dire, c'est. Si t'enlèves un tabouret à trois pattes, t'en enlèves une, là, ça shake. Là. C'est toutes sortes de réalités qui sont super stressantes. Puis si on n'en ferait pas prendre conscience aux gens qui partent dans des entreprises comme ça, puis qui disent non, moi, je stresse pas, moi, tout va bien, mais à un moment donné, ça va casser. Là, ça peut arriver un career derailer, là, je veux dire, tu fais un accident de char ou ton associé se pète la gueule, puis tu te reviens.
Ah non, mais tout change, moi, pire que ça, là. On parlait de santé mentale, tu sais, je sentais que j'avais pas le droit à l'erreur, puis il fallait tout le temps que je sois là, mais des fois, j'espérais me faire frapper par un autobus pour aller me reposer à l'hôpital.
Là. Oh!
Tu sais, c'était rendu grave. Là.
Ouais, ouais. C'est ça, t'as pas de voie de passage, là, c'est comme, j'ai pas le choix de continuer.
Exact, t'as pas le choix. Là. C'est ton rêve, il y a plein de monde qui ont cru en toi, moi, j'ai des amis d'université, tu sais, qui m'ont donné 10 000, ce qui était beaucoup pour eux, puis là, tu veux pas les décevoir, puis tout ça, fait que, tu sais, tu peux pas dire je vais lâcher, mais t'es rendu tellement au bout du rouleau que, tu ben, si c'est un facteur extérieur, ben, tu sais, ça va être, je vais le prendre.
Catholique!
La peur de casser.
Ouais. Mm-hmm. Ah oui. Ouais. Mais la part de l'échec, là, en général aussi, là, c'est quelque chose qui tenaille énormément, tu sais, puis... Mais c'est ça, c'est que, tu sais, des fois, c'est... Moi, des fois, je me fais dire, ah, c'est pas grave, c'est dans l'échec que, tu sais, que t'apprends, tu sais, jusqu'à... Va chier, là, sérieusement, là, si tu savais c'est quoi, là...
C'est toi qui es dedans.
Ouais, c'est ça, tu sais, la stigmatisation aussi, tu sais, puis, puis tout ça, c'est que toi, aujourd'hui... Ah ouais, Bertrand, il a vendu à Apple, là, tu sais, il est fucking chanceux, je vois, mais si tu savais, tu parlais de cicatrice, là, c'est fou, là. C'est fou, raide. Tu sais, y a-tu quelque chose qu'on, tu sais, outre un fonds de capital de risque ou un accompagnement, mais tu sais, dans ce qu'on peut amener dans l'écosystème actuellement, là, tu sais, qui serait peut-être une... ben, moi, je parle de la santé mentale le plus possible, là, mais tu sais, concrètement, y a-tu quelque chose que vous imaginez qui aurait fait une différence dans
mais je pense que aux États-Unis, ils ont plus tendance à redonner dans l'écosystème. Donc, puis tu sais, je suis optimiste par rapport à ça. Tu sais, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui redonne, mais je pense que il faut pas oublier d'où on vient aussi. Tu sais, des fois, c'est comme tu as réussi, puis là, c'était, tu passes en mode, ben là, je veux pas perdre ce que j'ai. mais je pense que on voit beaucoup dans le capital de risque, souvent, c'est des entrepreneurs que là, après ça, décident de partir à un fonds d'investissement, puis tout ça. Je pense que j'espère qu'il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui vont le faire. Mais il y en a, mais je pense qu'il pourrait en avoir plus.
Ouais.
Puis le filet, ben, est toujours bien important. Le filet de, tu sais, tout le monde qui collabore à la santé financière, mentale de l'entrepreneur, puis d'avoir des aides humaines et financières. Moi, je sais pas, tu sais, si un entrepreneur me dit « VC, on y va du capital, Valérie, je devrais-tu y aller capital de risque à fond? » Ben, je vais dire, là, si tu peux l'éviter, vite-le, mais tu sais, si t'es bien chanceux, si tu peux emprunter, puis si tu peux ne pas te rendre là, mais c'est t'assurer de travailler en fonction de tes valeurs, puis d'être honnête, faut que les gens arrêtent d'avoir peur de ce qu'ils sont, puis de se faire des carapaces. Parce que même quand tu travailles avec un VC, ça va bien aller à partir du moment où est-ce que tu as développé une collaboration. C'est pas du cash pour du cash. Il faut que tu aies un système de valeurs qui soit compatible, même si c'est pas exactement le même. Il faut qu'il soit compatible. Il faut que tu veuilles t'en aller à la même place. Puis tout ça, ben c'est de la confiance. Puis c'est de la discussion, c'est de la communication. Puis même à l'intérieur d'une entreprise, entre partenaires, il faut que tu laisses cette confiance-là. Il faut que tu te parles entre partenaires. Moi, j'ai eu un partenaire à qui j'ai perdu confiance parce qu'il me cachait des affaires.
Ah oui.
Pour probablement m'éviter des stress, mais c'était tellement pas la bonne affaire.
Ah, oui. Quand tu le découvres, là, en plus. Là,
quand tu le découvres, c'est très dur à rebâtir après. Fait qu'il faut essayer de bâtir tout le temps vers le haut. Ça...
C'est pas toutes les entreprises non plus qui sont pour le capital de risque.
Non.
Donc, tu sais, c'est pas toutes les fonds qui sont égaux. Tu sais, il y en a que c'est vraiment juste le côté financier qui est important. Puis il y en a d'autres, ben c'est créer l'écosystème, c'est
le projet.
Ça, ouais, c'est ça.
Ou il y en a que c'est l'impact, là, ça crée, là, tu sais, ceux qui sont dans clean tech, justement, là, je veux dire, il y a d'urgence, là, la maison brûle, là, tu sais, on verra plus tard, mais je veux dire, là, il y a des impacts à aller chercher puis des collaborations à faire.
Le MedTech, on voit beaucoup d'intérêt sur les MedTech, là, depuis la COVID, c'est comme si, il y a eu une espèce d'appel.
Mais on s'est aperçu aussi qu'avec COVID, quand que le monde se met à collaborer aussi là, dans le MedTech, les vaccins, ça a pris...
hyper rapide.
Ouais, super rapide, mais ça a pris des scientifiques qui étaient mus par un objectif précis. Écoute, il faut la trouver, la solution. Puis la collaboration, c'est encore une fois la clé. Là. Écoute, on va peut-être passer à la dernière partie où là, je vous ai promis une petite... un petit throwback from the past, comme on dit, un retour sur une partie de l'histoire. Vous connaissez le terme la calépaule. Le balado s'appelle comme ça parce qu'on a créé ça dans le fameux chalet en Boiron où une semaine après, une semaine avant le petit morceau qu'on va écouter, la décision était prise. On va entendre René Lévesque là, qui nous fait son pitch de vente. C'est une petite entrevue qui a été captée là quand il lançait une campagne électorale autour du sujet de la nationalisation. Moi, j'aime ça la faire jouer, tu sais, parce que ça nous ramène dans un espace-temps qui est différent. Tu sais, on revient loin en arrière, puis on est capable de voir tous les impacts qu'une simple décision entre guillemets. Mais en réalité, tu sais, moi, je présume que tu sais Lévesque et compagnie, de vraiment pas tout seul là, dans un projet comme ça là. Mais pouvait anticiper des retours autres que juste économiques là, sur une décision comme ça. Puis ils se sont pas tout à fait trompés, là, je pense. Puis je vous amène à réfléchir peut-être dans un avenir à plus long terme, là, mais tu sais, qu'est-ce qu'on a comme grand potentiel, puis une clé là, qui pourrait nous amener là un peu plus rapidement. Donc, on part ça, puis on reprend juste après, ça dure une minute.
Septembre 1962. Jean Lesage réunit son cabinet dans le fameux chalet en Boiron, au lac à l'épaule. Alors, ministre des Richesses naturelles, René Lévesque convainc le cabinet qu'il faut procéder à la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Écoutons-le.
Maintenant, dans l'avenir, pas besoin de vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre, et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de potentiel électrique, tandis que nous, on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique, le poids que ça nous donne en partant, c'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
Tout mais. Donc, on revient au lac à l'épaule avec Valérie. L'avenir, c'est long, tu sais, mais on peut déjà tracer peut-être quelques petites voies. Toi, tu as une bonne et longue expérience dans une industrie qu'on connaît dans le jeu vidéo, puis maintenant, tu es rendu avec les technologies deep tech, médicales, quantiques, photoniques, qui est une grande force ici. Comment tu vois cet avenir? Puis tu peux aller à l'extérieur aussi de ton day-to-day, là, si tu as envie d'y être. Et quelle est cette clé là, qui pourrait nous amener dans un monde meilleur?
Un monde meilleur. Il y a le il y a le côté innovation. Là. On était en jeu vidéo, on est passé en intelligence artificielle, puis je pense qu'on s'en va vers le quantique. Ça va être, je pense, dans les forces technologiques du Québec. Là, dans un positionnement assez de niche. Maintenant, si on parle de société, l'histoire nous dit souvent ce que l'avenir fait, nous laisse présager ce que l'avenir sera. Mais on a été très fort en éducation puis en santé, puis je pense que ça, ce ne sont pas des acquis sociaux. Il faut continuer à alimenter cet accès à la santé et à l'éducation. Puis on a un positionnement géographique assez intéressant aussi par rapport au climat, justement, l'immigration. Puis on a entendu qu'on était un peuple conciliant, puis je pense que c'est vrai. Puis il faut qu'on se donne les outils de le rester, puis qu'on devienne une terre d'accueil harmonieuse et positive. Qu'on utilise bien nos espaces, nos montagnes. Avec nos montagnes, on a beaucoup de lieux qui sont pas très utilisés, qui sont très accueillants et qu'ils seront d'autant plus à l'avenir. Puis je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans une perspective de paix, de paix mondiale.
C'est vrai qu'à cette île, avec de l'eau à une dizaine de degrés de plus, là, on serait comme à Cuba. Là. On le souhaite pas nécessairement, mais je veux dire, c'est vrai que tu sais, on a un territoire qui est magnifique, on se le fait dire quand les gens visitent, puis c'est ça, quand t'es, à part les mouches, là, mettons, là, mais je veux dire, c'est paisible là, dans cette nature.
Fait qu'on a l'avantage, nous tous là, qui sommes réunis, on a l'avantage de travailler en haute technologie, hein, c'est de l'innovation scientifique, puis ça nous laisse entrevoir l'espoir, parce que tout ce qui est développé, en fait, moi, tout ce que je côtoie, c'est pour améliorer le sort de l'humanité, que ce soit dans le micro, dans le nano, ou dans macro, c'est vraiment toujours la perspective.
Ça, tu sais, on est collé sur une société américaine qui ont des moyens différents des nôtres, là, mais tu sais, ils investissent énormément dans le secteur militaire, tu sais, puis on s'entend, ils savent se protéger, là, mais en éliminant la vie de quelqu'un d'autre, là, tu sais, on en a de la recherche dans le secteur de la défense, là, mais je veux dire, c'est pas nécessairement le core de notre recherche scientifique. Là.
C'est vrai, mais nous, on est des Canadiens, puis on est des Québécois et des Canadiens, puis on a eu des casques bleus quand on parle de militaire. Puis notre positionnement militaire
a longtemps été... les casques bleus.
Oui, c'est ça. Puis on a donc longtemps été en sécurité.
Médiation, puis en sécurité.
En médiation et en sécurité, et non pas en offensive de défense. Mais c'est vrai.
C'est une belle terre de paix.
J'aimerais ça. C'est ce que je nous souhaite.
Bertrand, dans ton prisme, voici le grand potentiel puis la clé qui nous manque.
Ben, je crois que la grande force de René Lévesque avec la nationalisation de l'électricité, c'est que il a donné une ressource essentielle à toute la population au Québec. Donc, mon père m'expliquait que c'était au bout d'un rang puis c'était pas rentable. Ben, l'entreprise privée voulait pas te donner l'électricité. Donc, l'électricité, c'est un enabler. Ça te permet de t'industrialiser, de créer de la richesse, tout ça. Donc, moi, je crois que, un peu comme il y a eu la nationalisation de l'hydroélectricité, je crois que un nouveau projet de société qui serait rassembleur, c'est d'utiliser nos forces créatives, puis nos valeurs québécoises sont exportables. Tu sais, je crois que on est très critique comme peuple envers nous-mêmes, c'est bien parce qu'on veut tout le temps s'améliorer. Mais un service essentiel en ce moment, c'est Internet. Coupez l'Internet là, chez vous une journée, puis vous allez voir.
Moi, les deux garçons, ils vont crier. Là, c'est juste à ça, je pense.
Exact. Non, mais juste pour le travail. Tu sais, on parlait pourquoi qu'on est venu ici, c'est qu'on avait au moins accès à un peu à Internet. C'est dur maintenant de se priver d'Internet, puis il y a une transition d'Internet vers le mobile, puis là, il y a une transition vers un web 3D, d'où le terme métavers, puis les gens croient que le métavers, c'est seulement les jeux vidéo.
Les avatars.
Pourquoi ça commence par les jeux vidéo? Parce que les gamers, c'est des early adopters, c'est des primo-adoptants, si on veut prendre un...
L'Office de la langue française, merci. Oui.
Donc, je crois que c'est inévitable qu'il y ait une transition vers un web immersif. On parlait tantôt du Zoom, que c'est pas pareil. Mais grâce au métavers, on va pouvoir avoir un avatar qui nous ressemble ou pas. On va pouvoir un alter ego si on veut. On va pouvoir avoir le même contact humain. C'est une machine à empathie, la réalité virtuelle. Tu peux vivre des expériences de guerre que tu n'aurais jamais vécues. C'est très puissant. Puis je crois que à la place d'être un peu à la merci des grosses compagnies américaines qui vont dicter le métavers, on est autant mieux de créer un métavers qui nous ressemble avec nos valeurs et de l'exporter, parce que ces valeurs-là, c'est des valeurs positives puis qui vont être appréciées des autres. Puis souvent, tu sais, on dit les voyages forment la jeunesse. Plus que tu découvres le monde, moins que le monde te fait peur. Donc, on parlait de la guerre tantôt, je pense. Les guerres, souvent, c'est l'inconnu. Ouais. C'est « Oh mon Dieu, il veut voler mes ressources, blablabla. » Si on crée un métavers inclusif où on peut voyager dans le monde, connaître d'autres cultures sans prendre l'avion et tout, démocratiser un peu des cultures internationales, je pense qu'il va y avoir moins de violence, moins de d'incompréhension. Puis je crois que, tu sais, on parlait d'AI, de jeux vidéo, c'est tout des blocs pour bâtir le métavers. Puis on a cette ressource-là au Québec. Puis historiquement, puis c'est normal, on avait tendance à avoir des industries de services. Donc, on faisait le travail pour les autres. Mais on a bâti notre expertise grâce à ça. Ça, c'est super. Là, il faut passer à la prochaine étape puis dire, à place de travailler pour les autres, pour bâtir leur vision, créons-nous une vision qui nous ressemble, créons un métavers qu'on veut, puis exportons-le. Puis pour ça, vu qu'on a moins de ressources, il faut collaborer. Donc, c'est un peu ça, la genèse du manifeste du métavers. Donc, je vais finir là-dessus. T'sais, allez à metaquebec.org puis regardez ce qu'on a mis en ligne. Puis si vous aimez ce que vous voyez, signez-le.
Moi, j'ai trouvé ça, je l'ai signé. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce que, tu sais, on parle de culture, on parle de valeur, tu sais, pas juste « Hey, ça va être fucking nice, on va pouvoir jouer là, comme jamais. » Tu sais, ça, c'est vraiment basé sur des valeurs propres. Puis dire, il y a une opportunité de se l'approprier. Ben, pas se l'approprier, mais de pas se laisser dérober cette opportunité-là par des corporations qui ont moins de soucis pour ces éléments. Donc, moi, je trouvais ça super intéressant de l'amener. Puis, tu sais, c'est sûr que il y a eu du chemin de fait depuis, comment il s'appelait, là, Johnny de je sais pas quoi, là, de Daniel Langlois. Toi, tu dois connaître ça, Nicolas. Johnny de Pelletrie, exactement, tu sais, qui est un... Ça dit-tu quelque chose, Johnny
Daniel
de
Pelletrie? Langlois, Daniel Langlois, pas Johnny de Pelletrie.
Mais tu sais, c'était Marc Petit qui m'avait raconté de ce petit bout d'histoire-là. Johnny de Pelletrie, c'est le premier, la première animation 3D, là, tu sais, réalisée par ordinateur, là, dans une production télévisuelle ou cinématographique, plutôt. Puis il avait soumis ce projet-là... Puis, mais tu sais, lui, Daniel Langlois, il avait la vision de ce qu'il voulait, mais bon, il aurait pu dessiner son truc comme Walt Disney 100 ans avant, là, mais il voulait le faire par ordinateur, puis il avait besoin d'un frame rate, puis ça s'en allait au cinéma, donc il y avait un nombre de pixels supplémentaires à gérer, etc. Puis c'est le CNRC qui a donné accès à des super ordinateurs pour pouvoir faire les calculs. Il avait développé les logiciels et tout, mais pour pouvoir produire comme tel. Ben, c'est... on l'écoutera après, si tu veux. Tony de Pelletrie, exactement. Ouais. Et puis, ça lui a permis, à ce moment-là, de, bon, premièrement, gagner le prix de je ne sais plus trop quel concours, là, machin, là, puis de le mettre sur la carte. Puis ensuite, ça l'a donné Softimage, puis ça l'a donné, tu sais, plein d'autres, puis ça l'a donné naissance à une industrie créative au Québec qui est reconnue. Son deuxième projet ou troisième qu'il a fait, c'est Jurassic Park, les effets spéciaux de Jurassic Park. C'est que, tu sais, du prototype au marché puis au succès, ça a été...
Puis la vision de Bernard Landry a permis d'amener les jeux vidéo au Québec. Ouais. Justement, ce dimanche, il y a un hommage à la vision de Bernard Landry chez Ubisoft, ou samedi, mais en fin de semaine. Donc, tu sais, il faut avoir une vision, puis le plus dur, c'est de l'exécuter.
Ouais.
Mais je crois qu'on a la masse critique et le talent pour l'exécuter. Après ça, il faut juste...
Il faut leur donner des moyens de la confiance, tu sais, je veux dire...
Mais ça, c'est un gros débat, là, parce que, tu sais, oui, moi, dans Landry, c'est parfait. Je veux dire, ça nous a fait... Ça nous a structuré, effectivement, comme industrie. Mais là, maintenant, on est dans la pénurie de main-d'œuvre, il n'y a plus de talent, il n'y a plus... On a besoin de ressources, puis toutes nos ressources sont payées plus cher à travailler pour des gens dont la maison-mère est ailleurs. Fait, tu sais, c'est comme...
Il faudrait rebrasser un peu.
Puis c'est pas juste en jeu vidéo. C'est
non, mais il y a moyen de changer les lois pour pallier à ça aussi. Là. Si t'es une entreprise étrangère, même si t'as un bureau canadien, t'as pas le droit aux mêmes avantages. Ça.
Mais tu sais, je pense que c'est le d'identifier un secteur porteur. Puis c'est un petit peu, moi, où je voulais vous amener. Là, dire, on a des choses qu'on connaît bien depuis longtemps. Tu disais 40-50 ans pour l'AI ou la quantique. Puis on a une industrie créative qui n'est pas naissante. 85, ça fait quand même un petit bout de temps. Là, mais c'est des secteurs d'avenir là, qu'on identifie puis qu'on pousse avec la puissance d'une volonté politique puis d'un État là, qui a des ressources pour y arriver. Donc, en tout cas, merci pour la discussion. Ça a été... Ben, comme je dis, j'ai pas de plan de match, là, puis je trouve ça fabuleux. On arrive à faire des...
Merci. Mais c'est ça, scientifique, pour moi, ne veut pas nécessairement dire tout le temps numérique. Ça peut vouloir dire un retour à l'espace et à la Terre.
Ah, ben c'est clair.
L'utilisation de nos ressources.
Absolument.
Aussi,
puis l'innovation, c'est pas de la technologie nécessairement non plus.
Non, c'est
là,
ça.
C'est ça. Puis ça, c'est des discussions qu'on a eues. T'écouteras les prochains épisodes de Balado. On en a abordé aussi les sujets parce que c'est sûr que t'sais, on veut améliorer le sort du monde, là, mais c'est pas tout le temps de la technologie non plus. Des fois, ça passe un peu par là. Ou d'autres fois, juste trouver une façon de bien vivre en région, puis de dire...
L'équilibre.
Ouais, voilà.
Il faut de la diversité dans la créativité.
Ouais. Ben, une belle conclusion. Merci Bernard, merci Valérie. Puis,
merci.
Merci à toi pour l'initiative.
Merci Charlot. Merci Bernard.
Qu'est-ce que je retiens de cette entrevue avec Bertrand Neveu et Valérie Hénère? Ben, premièrement, l'histoire de Bertrand. On dit des fois dans le domaine des technologies innovantes à fort potentiel, c'est un projet sur 10 qui va faire un grand succès flamboyant. Ben, Bertrand, c'en est un. Vous voyez, dans un parcours qui est extrêmement difficile, qui est long, ça l'a pris 18 ans entre le moment qu'il a fondé son entreprise puis cette année où Apple a présenté le Vision Pro. Imaginez, on voit des fois les histoires à succès ultra rapides, mais la réalité, c'est que c'est parfois beaucoup plus long. Puis ça demande énormément de résilience pour passer à travers de tout ça. Chapeau Bertrand de nous avoir partagé ça avec autant d'humilité, puis aussi de bienveillance pour pouvoir justement prévenir celles et ceux qui veulent vivre cette vie-là, mais aussi qui accompagnent ces gens-là. Ça m'amène à parler aussi du travail de Valérie puis des autres dans l'écosystème d'accompagnement des entreprises innovantes au Québec. On l'a dit, c'est un petit marché au Québec. C'est rare qu'on peut tester nos choses dans notre marché puis de valider tout ça. Donc, ça prend de l'accompagnement de classe mondiale puis ça prend des gens qui ont ce devoir-là ancré en eux d'aider les autres à réussir. Et je vous conseille fortement d'aller goûter l'accompagnement qu'on offre dans les accélérateurs, incubateurs, parce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment sentir, ce besoin-là d'aider l'autre à réussir. Peu importe le projet entrepreneurial, peu importe dans quelle ville tu te situes à travers le Québec, il va y avoir des gens qui vont vouloir vous aider à réussir. Donc, je vous dis merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode de La Cale Épaule. Je suis Charles-Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn. linkedin.com/in/charlesoroy. Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à parler du balado autour de vous. Puis même si vous êtes game, de nous laisser un petit commentaire sur votre plateforme préférée. Ça nous aide à nous faire connaître. Plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Alors, avant qu'on se quitte, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre 2 petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacalepaule.quebec/sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est connaître un petit peu mieux, puis surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.